Voice of Indonesia.
Bonsoir, Sir Rita. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, Sir Rita, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président indonésien Joko Widodo se rend en Arabie Saoudite pour répondre à l'invitation du roi Salman. Le président Joko Widodo et le roi Salman ont convenu de renforcer la coopération économique. L'Indonésie et l'Arabie Saoudite ont accepté de tenir des réunions annuelles. Le ministère indonésien de l'industrie ne connaît pas de désindustrialisation. Les chercheurs apprécient la modernisation des outils agricoles pour la sécurité alimentaire. Le ministère de l'Industrie tient le sommet industriel d'Indonésie 2019. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo et la première dame Iriana Joko Widodo se rendent en Arabie Saoudite pour répondre à l'invitation du roi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dimanche. Le président a également effectué l'umrah. Bey Mahmoudin, le député chargé du protocole de la presse et des médias à Jakarta dimanche, a déclaré qu'en l'honneur de l'invité, le prince héritier Mohammed bin Salman avait également invité le président à se rencontrer séparément à Riyad. Le président Joko Widodo et la première dame Iriana devraient rentrer lundi à Jakarta. Le président Joko Widodo et le roi Salman ont convenu d'intensifier leur coopération dans le domaine économique. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, après avoir accompagné le président lors d'une réunion bilatérale au palais Al-Qassal Al-Qas dimanche, a déclaré que le président Joko Widodo et le roi Salman ont convenu que la coopération économique continuerait à être améliorée dans le domaine de l'énergie et le tourisme. Selon le communiqué de presse du député pour le protocole, la presse et les médias du secrétariat président, M. Bey Mahmoudin, le président a également apprécié tous les Indonésiens pour redonner un quota supplémentaire de 10 000 pour les pèlerins du Hajj indonésien. Le roi Salman exprimait une haute appréciation pour le leadership indonésien dans le maintien de la stabilité régionale et mondiale. Le roi Salman a également apprécié l'Indonésie pour son leadership dans le monde islamique. Le président Joko Widodo, lors de sa visite de travail en Arabie Saoudite, a tenu une réunion bilatérale avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman au palais du prince héritier de Riyad dimanche soir. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, qui a accompagné également le président à la réunion, a déclaré que l'Arabie Saoudite et l'Indonésie avaient décidé de créer un mécanisme de consultation au niveau des dirigeants et de tenir une réunion annuelle. La ministre Retno Marsudi, comme a été affirmé par le député chargé du protocole de presse et de médias au secrétariat présidentiel, M. Bey Mahmoudin, a déclaré que l'Indonésie et l'Arabie Saoudite avaient convenu d'organiser immédiatement une réunion pour discuter de l'investissement et d'autres coopérations économiques. L'Arabie Saoudite s'est intéressée à coopérer avec l'Indonésie dans les domaines de l'énergie et de la pétrochimie, comme l'a déclaré le prince héritier. Le président Joko Widodo a également déclaré que l'Indonésie voulait faire partie de la mise en œuvre de la vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère de l'Industrie s'assure que l'Indonésie n'a pas connu une diminution de la contribution du secteur industriel au produit intérieur brut ou de désindustrialisation parce que la contribution de l'industrie manufacturière indonésienne en tant que pilier de l'économie est encore considérée comme assez importante. Cela se voit à la hausse de l'investissement, de la mise en œuvre supplémentaire et des recettes en devises provenant des exportations. Comme cité par Antara, le secrétaire général du ministère de l'Industrie, M. Haris Munandar, dans son communiqué de presse à Jakarta dimanche, a déclaré que le phénomène de désindustrialisation s'est produit lorsque la contribution de l'industrie au produit intérieur brut était très faible, ce qui signifiait une chute spectaculaire. Le ministère de l'Industrie a noté que la contribution de l'industrie manufacturière au produit intérieur brut était de 20%. Cette situation place l'Indonésie au cinquième rang des pays du G20 après la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l'Allemagne. Asifa Jami Ilman, chercheur du Centre d'études des politiques indonésiennes, apprécie les divers programmes de modernisation des équipements agricoles du ministère de l'Agriculture visant à améliorer la sécurité alimentaire nationale. Actuellement, le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, devrait être apprécié pour le programme en cours de modernisation des outils agricoles et de subvention des semences et des engrais, bien qu'il reste encore beaucoup à améliorer. Comme rapporté par Antara, Asifa Jami Ilman, dans un communiqué de presse publié à Jakarta dimanche, a déclaré qu'il était bon que le gouvernement se concentre sur la réalisation de la sécurité alimentaire nationale. Les agriculteurs locaux ont besoin d'un soutien pour pouvoir concurrencer avec les agriculteurs internationaux avec un programme conçu pour réduire les coûts de production. Le ministère indonésien de l'Industrie tiendra le sommet industriel d'Indonésie 2019 sur le thème « La mise en œuvre de Making Indonesia 4.0 vers les 10 premiers pays de l'économie mondiale » tenu à Tangerang, Banten du 15 au 16 avril. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie, M. Haris Munandar, a déclaré récemment à Jakarta que plus de 3300 participants participeront au sommet, entre autres des représentants de ministères et institutions, des ambassades, des gouvernements locaux, associations et des hommes d'affaires, des praticiens technologiques. Et le sommet sera ouvert par le vice-président Yusuf Kalla, accompagné du ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartarto. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La période calme de l'élection 2019 ne doit pas être entachée ». La période de campagne électorale pour les participants à l'élection 2019 qui a débuté en septembre 2018, où il y a environ 7 mois, est terminée. La Commission électorale générale d'Indonésie, ou KPU, a fixé la date du 14 au 16 avril comme la période calme de l'élection de 2019. Les participants aux élections sont interdits de faire campagne sous n'importe quelle forme en temps de calme. Ils peuvent être sanctionnés s'ils violent les règles établi par la loi et la réglementation de la Commission électorale générale d'Indonésie ou PKPU. Quelles sont les règles en période de calme pour les participants aux élections? Conformément à la loi électorale numéro 7 l'année 2017, pendant la période de calme, les exécuteurs, les participants et l'équipe de campagne du président et du vice-président sont interdits à promouvoir ou donner une récompense aux électeurs, à ne pas utiliser leur droit de vote, choisir des candidats, choisir certains partis politiques participant aux élections et élire des candidats pour le Parlement indonésien, le Parlement régional et le Conseil des représentants régionaux. À travers la Commission électorale générale d'Indonésie ou PKPU, la Commission électorale générale d'Indonésie KPU réglemente l'interdiction de faire campagne sur les médias sociaux. L'agent de supervision des élections ou Bawaslu supervisera les campagnes sur les médias sociaux dans une période de calme en collaboration avec le ministère de la Communication et de l'Information pour superviser les publicités sur les médias sociaux. Les sanctions pour violation de l'interdiction sont l'emprisonnement maximal de 4 ans et une amende maximale de 48 millions de rupiahs. En temps de calme, les participants ou les partisans aux élections sont interdits de diffuser les antécédents d'une personne ou l'image de soi d'une personne. S'il y a une campagne illégale, il y a alors deux sanctions, à savoir les sanctions administratives électorales et les sanctions pénales. Le commissaire de Bawaslu, M. Fritz Edward Siregar, a déclaré que son bureau enverrait immédiatement une lettre à la plateforme de médias sociaux afin de n'accepter aucune forme de publicité pendant la période de calme. La période de calme d'environ 7 mois qui a drainé l'énergie, la pensée, la stratégie et les finances est certainement suffisante pour attirer et convaincre les électeurs et potentiels. Pour cette raison, cette période de calme n'est pas entachée par des actes qui ne sont pas louables, ce qui pourrait nuire à la valeur de l'honnêteté et de la justice des élections de cette année. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 15 avril 1989, le commencement de la manifestation de Tiananmen. La manifestation de 1989 sur la place de Tiananmen consistait en une série de manifestations organisées par des étudiants sur la place de Tiananmen à Beijing, en République populaire de Chine, entre le 15 avril et le 4 juin 1989. Cette manifestation visait à l'instabilité économique et à la corruption politique, qui est ensuite entendue aux manifestations pro-démocratie, quelque chose qui n'est pas encore commun dans la Chine autoritaire. Plus de 3000 personnes sont mortes à la suite d'actions menées par les forces armées. Les étudiants ont commencé à manifester à la mi-avril 1989 à la suite du décès de Hu Yaobang, secrétaire général du parti qui a démissionné. Il était perçu comme une personne à l'esprit libéral et Deng Xiaoping l'a forcé à démissionner de son poste. Beaucoup de gens, notamment les intellectuels, considèrent cela comme un traitement injuste. Le 15 avril 1998, Pol Pot, dirigeant cambodgien des Khmer Rouge, est décédé. Pol Pot est un leader du mouvement communiste cambodgien. Il était connu comme un révolutionnaire cambodgien qui dirigeait des Khmer Rouge. Après la conquête de Phnom Penh par ses forces, il devient le chef du Cambodge le 17 avril 1975. Peu de temps après, il avait plus de pouvoir en tant que premier ministre du Cambodge démocratique entre 1976 et 1979. Sous sa direction, Pol Pot était connu comme un dictateur totalitaire. On estime qu'environ 1,5 million de personnes vivant au Cambodge ont été massacrées sous le gouvernement du régime de Pol Pot et Khmer Rouge. Il a alors fait un effort pour s'échapper, mais finalement il a été arrêté et emprisonné à vie jusqu'à sa mort le 15 avril 1998, en résidence surveillée à la suite d'une crise cardiaque. Le 15 avril 2011, la bombe de Cirebon. L'attentat à la bombe de Cirebon en 2011 était l'attentat suicide commis contre la mosquée du quartier général de la police de la ville de Cirebon en Indonésie orientale le vendredi 15 avril 2011. Cet événement a fait 25 blessés, y compris le chef de la police de Cirebon, Resort. La bombe qui a explosé au quartier général de la police de Resort Cirebon est un attentat suicide qui a coûté la vie de l'auteur. Une explosion a été entendue dans un rayon de 2 km. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Menghilang, chantée par Andira. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulé le lancement du premier sous-marin de la production des Indonésiens. Serviteur, pour la suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre le lancement du premier sous-marin de la production des Indonésiens. L'Indonésie a finalement réussi à produire son propre sous-marin. Le système des équipements de défense Alutsista du type des sous-marins fabriqués par les Indonésiens a été officiellement lancé premièrement jeudi le 11 avril sur le quai des infrastructures de sous-marins de par la société anonyme Surabaya à Java Est. Le sous-marin a été nommé KRI Alugoro 405. Le KRI Alugoro 405 a été produit avec un schéma de transfert technologique avec la Corée du Sud. Le lancement du sous-marin Alugoro 405 a été effectué directement par le ministre indonésien de la Défense, Riamiza Triakudu, et le chef d'état-major de la marine, l'amiral TNI Siwi Sukma Aji. Riamiza Triakudu, comme cité par Média Indonesia, vendredi a déclaré que le sous-marin Alugoro 405 sera utilisé dans toutes les eaux indonésiennes. Ce navire est le troisième sous-marin fabriqué par la société anonyme en collaboration avec Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering de la Corée du Sud. Les deux premiers sous-marins ont été construits en Corée du Sud et sont actuellement en service. Ces deux sous-marins étaient KRI Nagapasa 403 et KRI Arda Dedali 404, tandis qu'Alugoro 405 a été construit à PAL Indonesia Société Anonyme. Selon Riamiza, tous les pays peuvent fabriquer des sous-marins. Dans la région de l'ASEAN, seule l'Indonésie est capable de le faire. Selon lui, le lancement du troisième sous-marin est une percée majeure dans l'industrie de la défense indonésienne, faire de l'Indonésie de plus en plus comptée dans le monde. Il a dit que l'Indonésie n'a pas d'ennemi de l'État, mais le lancement de ces sous-marins indique que l'Indonésie est en mesure de répondre à ses propres équipements de défense. Riamiza espère qu'à l'avenir, l'Indonésie pourra vendre des équipements de défense à d'autres pays. Selon lui, la capacité de l'Indonésie à fabriquer des équipements de défense indépendants est conforme aux idées de la nation, à savoir devenir l'axe maritime du monde. Pendant ce temps, le président directeur de PAL Indonesia Société Anonyme, Budiman Saleh, a remercié de la confiance du ministère de la Défense à PAL Indonesia Société Anonyme pour la construction de sous-marins. Il a déclaré que la construction de sous-marins avait été financée par la participation de la capitale de l'État dans 5 trillions rupiah. Selon lui, avec le lancement de sous-marins, l'industrie de la défense indonésienne, en particulier les forces maritimes, a acquis une nouvelle vigueur en tant que force du système de défense nationale pour se prémunir contre les menaces potentielles. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Antara kau dan aku. tahu pasti dirimu tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku mau dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta mau dibawa kemana hubungan kita
Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée « Mau dibawa kemana » chantée par le groupe musical Armada. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à voyager à Nusa Tenggara West. Chers auditeurs, Lombok est une île de Nusa Tenggara administrativement dans la province de Nusa Tenggara West. En plus de Bali, Lombok est aussi une destination touristique favorite en Indonésie. La population islamique est majoritaire musulmane, environ 95%, et le reste du christianisme, de l'hindouisme, du bouddhisme et du confucianisme. Ils vivent côte à côte harmonieux. La tolérance religieuse à Lombok était si forte, l'une d'elles est regardée dans les édifices de culte des communautés hindoues, à savoir le temple de Lingsar. Le temple de Lingsar est un symbole d'harmonie entre les hindous et les musulmans à Lombok. Chers auditeurs, le temple de Lingsar est situé au village de Lingsar, la résidence de Lombok West. Ce temple est le plus grand à Lombok, construit depuis 1741 par le roi Anak Agung Ketut Karangasem comme symbole d'unifier le peuple de Lombok et est considéré comme le plus sacré à Lombok. Dans ce lieu, toute statue était similaire. Il n'y avait pas plus haute ou plus large. Pura ou le temple avec une superficie de 26 hectares, cela montre vraiment l'harmonie entre l'islam et l'hindouisme. Par exemple, il y a les règles et les règlements qui doivent être respectés afin de maintenir l'unité dans ce lieu. Les règles sont sous la forme d'offrandes d'abstinence. il y a des offrandes qui sont interdites d'être données dans le temple de l'Insar. Les hindous sont interdits de livrer des offrandes qui contiennent du porc odio parce que le porc est l'animal qui est interdit par les musulmans. En revanche, le musulman est interdit de couper les vaches pendant l'Eid al-Adha parce que les animaux sont considérés comme sacrés par la communauté hindoue. La tolérance est un jalon qui unifie Lombok. Serviteurs dans ce temple des hindous et des musulmans, prions ensemble, surtout les musulmans de Sasak. Pour continuer à renforcer le lien entre ces deux parties religieuses, le temple de l'Insang a encore tenu une cérémonie impliquant les deux religions. Cette cérémonie est appelée Prang Ketupat. Dans cette cérémonie, les musulmans et les hindous lanceront le ketupat. C'est comme une forme de gratitude pour l'harmonie qui existait jusqu'à présent et pour la fortune en abondance. Comme symbole de préservation de la sainteté du temple, chaque visiteur doit utiliser un foulard jaune comme enseigne de respect. Lors de l'arrivée à ce temple, vous verrez des neuf fontaines sacrées comme symbole de représentant de Wali Songo. Cette eau est utilisée pour les ablutions musulmanes. L'eau provient de la fontaine est également censée d'apporter la fortune, le succès et le bonheur. Vous qui visitez cet objet touristique trouverez quatre fontaines dans la zone au-dessous du temple, tandis que le reste se trouve dans la zone de bas. Au temple de l'Insar, il y a une piscine qui a été construite pour honorer le dieu Vishnu avec une superficie de 6230 m². Cette piscine, appelée Telaga Ageng, est habitée par des poissons qui ne sont pas appelés, ne se manifestent pas. Pour visiter le temple de l'Insar, vous pouvez prendre les transports en commun du terminal de Bertais, dans le centre-ville vers Narmada qui coûte 3000 rupiah. En outre, de Narmada au temple avec le même tarif. Serviteurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Le Temple de l'Insar. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Voice of Indonesia.
Sama-sama, sama-sama tahu, ada saja.
Kata orang yang baik belum tentu terbaik. Berulang kali coba pergi namun aku berbalik. Mungkin berarti ini pertanda kau juara di hati.
Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama ragu. Tapi ada saja yang membuatku yakin lagi padamu. Kita sama-sama mau kau dan aku mencari jalan.
Kadang ku sendiri, kadang ku mencari. Namun selalu padamu ku kembali. Mungkin berarti ini pertanda kau juara di hati.
Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama ragu.
sama-sama ragu, tapi
Chers auditeurs, c'était la chanson de Hayevai intitulée Sama-sama Tau. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est meminta nomor telepon ou en langue française demander un numéro de téléphone. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre meminta nomor telepon ou en langue française demander un numéro de téléphone. Tony est dans la zone de temps de Prambanan avec son ami Joko. Joko a demandé le numéro de téléphone portable de Tony, le numéro en Indonésie.
Tony, boleh minta nomor HP kamu?
Boleh, 081-364-59720.
081-364-59720.
Bukan 6, tapi 0.
Oh, 9720.
Iya.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir meminta nomor telepon. Meminta nomor telepon. En français, demander un numéro de téléphone. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Tony, boleh minta nomor HP-mu? Tony, boleh minta nomor HP-mu? En français, Tony, je peux avoir ton numéro de portable? Boleh. Boleh. En français, d'accord. 0. En français, 0. 8. 8. En français, 8. 1. 1. En français, 1. 2. En français, 2. 3. 3, en français 3, 4, 4, en français 4, 5, 5, en français 5, 6, 6, en français 6, 7, 7, en français 7, 8, 8, en français 8, 9, 9, en français, 9, bukan 6, tapi 0. Bukan 6, tapi 0. En français, pas 6, mais 0. Handphone atau HP, atau telepon genggam, atau telepon seluler. Je répète, handphone atau HP, atau telepon genggam, atau telepon seluler. En français, telepon portable u telepon seluler. Pour demander le numéro de téléphone de quelqu'un, dites, boleh minta nomor telepon? Boleh minta nomor telepon? En français, je peux avoir ton numéro de téléphone? Si ce qui est demandé est un numéro de téléphone portable, vous pouvez dire, boleh minta nomor ponsel kamu? Boleh minta nomor ponsel kamu? En français, je peux avoir ton numéro de portable? Ou dans la conversation de tous les jours, boleh minta nomor HP? Boleh minta nomor HP? En français, je peux avoir ton numéro de portable? Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Tony, boleh minta nomor HP kamu?
Boleh, 081-364-59720.
081-364-59720.
Bukan 6, tapi 0.
Oh, 9720.
Iya.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
namun apalah artinya cinta pada bayangan. Biar aku yang pergi, bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri. Biar aku menepi, bukan telah menanti, namun aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Cinta Sendiri, chanté par Kahitna. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Cette fois-ci, je vais vous présenter des informations et une chanson de Kroncong intitulée Dinda Bestari. Cette chanson est l'une des chansons les plus célèbres chantées par Mus Mulyadi, surnommé Crocodile de Kroncong en raison de son extraordinaire popularité. La chanson intitulée Dinda Bestari raconte des souvenirs lorsqu'il a rencontré une femme qu'il aime. Il en manque bien, car il ne se rencontre pas depuis longtemps. Il ne peut pas rencontrer cette femme parce qu'il est en guerre pour la défense du pays. Chers auditeurs, Mus Mulyadi, le crocodile de Kroncong en Indonésie, est maintenant mort. Mus Mulyadi est décédé à Jakarta le 11 avril 2019. Le monde de la musique indonésienne est en deuil. Alors, chers auditeurs, voici la chanson de Kroncong dont le titre est Dinda Bestari du maestro de Kroncong s'appelle Mus Mulyadi. Bonne écoute! Bersama
Of Indonesia.
Yes.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.